Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du cercle des économistes. Vous avez publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. J'évoquais votre article. Il va être difficile à résumer dans le détail devant un micro. Il vaut mieux aller le lire d'ailleurs. Il est en page 12 des Échos de mardi. Mais enfin, voilà, j'ai été impressionné par cet article, j'ai considéré qu'en deux colonnes, on avait un mode d'emploi de réforme des retraites avec des éléments de réflexion particulièrement inédits. Et puis Philippe Aguillon aujourd'hui, qui considère qu'il ne faut pas mettre la borne d'âge à 65 ans, ce serait profondément injuste, explique un autre membre du Cercle des économistes, partenaire, vous le savez, de cette émission. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Président d'Odoxa, avec le baromètre Odoxa Abeille Assurance, challenge BFM Business. Et cette question, vous verrez, pourquoi est-ce qu'il y a des postes qui ne trouvent pas de candidats? Alors là, promets un débat. La réforme des retraites. Christian Saint-Etienne, vous écrivez cet article il y a deux jours en donnant des éléments clés de réforme, en considérant qu'il y a deux erreurs vis-à-vis desquelles il faut s'extraire. L'idée est de vouloir un régime unique. Non, pas de régime unique, ça n'est pas possible. Et puis faire croire qu'on va faire une espèce de réforme systémique, alors qu'évidemment c'est avec les paramètres qu'on y parviendra. Là, je viens de donner deux éléments, mais deux éléments qui ne permettent pas de prendre l'ampleur de la réflexion que vous avez voulu poser dans ce papier. Est-ce qu'on arrive à donner le sens de ce que vous écrivez sans donner tous les détails, parce qu'effectivement c'est complexe, mais c'est normal que ce soit complexe.
Alors, pour répondre à votre demande particulière,
impossible, j'admets,
ultra simple sur un sujet ultra complexe, je ferai deux réflexions en amont. La première, c'est que la question des retraites, c'est pas une borne à un moment donné. Il faut la replacer dans le cycle de vie. Donc, et comprendre que la retraite, c'est le moment où on passe du travail à d'autres activités, pour ne pas dire l'inactivité. Et donc, c'est important de préparer l'avant et l'après. Et le deuxième élément, c'est que effectivement, c'est un vice de pensée de vouloir faire un seul régime. Pourquoi ? Je me souviens, parce que c'est un sujet que je regarde depuis longtemps, et je me souviens en 2019, quand il y a eu la proposition de réforme du régime unique, alors vous aviez des députés de la majorité d'alors qui faisaient des grands discours, ils avaient certainement reçu, je sais, des feuilles avant, on leur disait il faut dire ça, ils ne connaissaient pas le sujet, ils répétaient, bon... Il vous disait, par exemple, il y a un seul régime en Suède. Très bien. Sauf qu'il y a un seul régime en Suède sur 40 000 euros, jusqu'à 40 000 euros. Et au-dessus, il y a 800 régimes. Voilà. Donc, le régime unique n'existe pas. Et ce que je dis dans le papier, c'est qu'en fait, il y a cinq façons de se relier au marché du travail. Et pourquoi on veut faire un système unique s'il y a cinq façons de se relier au marché du travail? Il y a d'abord le salarié du privé. Quand vous entrez dans une entreprise, normalement, si vous comprenez ce que vous faites, vous savez que vous êtes dans l'économie marchande et qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement. Vous choisissez le secteur public. Vous ne serez pas forcément très bien payé, mais il y a un deal qui est que à la retraite, vous aurez un niveau de revenu qui sera satisfaisant. Alors on peut se dire, mais on s'en fout. Sauf que qui veut être flic dans la Seine-Saint-Denis à 1400 balles par mois? Donc c'est une réflexion sur le cycle de vie qu'il faut avoir. Troisième façon de se relier au marché du travail... Et c'est là où on a des dirigeants qui ont perdu tout bon sens, mais même toute capacité d'analyse, même ne serait-ce que des mots, puisqu'il y a un régime en France qui s'appelle celui des indépendants. Mmh. Pourquoi est-ce que l'État, dirigé par des énarques, tous fonctionnaires, devrait gérer le régime des indépendants? On les laisse faire. Ensuite, il y a deux régimes particuliers. C'est les régimes spéciaux dits du public. comme SNCF, EDF, RATP.
SNCF, c'est en train, ça va s'éteindre, hein,
oui,
SNCF.
Oui, mais néanmoins, il y a des avantages particuliers dans la convention de spécifique à l'énergie. Mm-hmm. Mais ce sont des métiers à suggestion particulière. Bon, il y a des trains qui démarrent à 4 heures du matin, 5 heures du matin, les métros qui démarrent à 5 heures et demie. Voilà, donc ce sont des métiers à suggestion. Quand il y a une tempête, on trouve normal qu'il y ait 80 personnes d'EDF qui viennent d'un seul coup réparer au milieu de la tempête pour qu'on ait de l'électricité.
Donc, métier spécifique, régime spécifique, j'ai bien compris.
Et cinquième domaine, qui est le plus intéressant presque par son côté paradoxal, c'est que l'État impécunieux, à déficit récurrent, veut s'occuper de ce qu'on peut appeler les régimes spéciaux du privé, c'est-à-dire avocats, pharmaciens, médecins, ce que vous voulez, qui sont tous des systèmes privés excédentaires.
Absolument.
Et en réalité, ce que veut faire l'État, c'est piquer les excédents.
C'est bien ce qu'il redoute.
Voilà. Donc, je dis, il y a cinq façons de mener sa vie professionnelle. Gardons cinq régimes. À partir de là, il y a également une réflexion, c'est... est-ce qu'on peut retenir de la Suède ou d'autres pays des éléments ? Et effectivement, je pense qu'il faut avoir un cap, une limite supérieure, un plafond, et on peut dire, on a les cinq régimes jusqu'à 120 000 euros par an de revenus.
Trois plafonds de sécu, et voilà. Après, liberté de s'assurer dans le privé.
Et après, liberté, s'organise comme on veut. Et dans ce contexte-là, je dis, il faut passer pour, pas seulement rééquilibrer le régime de retraite, et puis je développe pas le reste, mais également parce qu'on a un déficit de main d'œuvre, on le parlera tout à l'heure. Il faut allonger la durée, le temps passé au travail, parce que on a besoin de compétences. Et ce que je propose au passage, c'est qu'évidemment ces compétences, il faut tenir compte du fait qu'après 62 ans, les gens ont moins d'énergie. Et je le développe pas maintenant, mais je propose d'utiliser un régime qui s'appelle le 80-90-100, où après 62 ans dans les entreprises, on travaille 4 jours par semaine, on est payé 90% de son salaire, mais on vient le cinquième jour pour faire de la formation professionnelle.
On n'a pas pu tout détailler, mais vous avez quand même donné beaucoup, beaucoup d'éléments et vous insistez sur le fait que les paramètres devront aussi prendre en compte la nécessité d'inciter à la natalité et de tenir compte, bien sûr, de la pénibilité. Je ne sais pas si, Benjamin Cordia, vous avez tout intégré de ce qu'a dit Christian, c'est assez dense. Je me dis, en l'écoutant, mais oui, il y a quand même moyen de trouver des solutions intelligentes, raisonnables, économiquement sensé, sans brandir ce qui forcément, et je ne sais pas ce que dit l'opinion, mais j'imagine bien qu'elle n'est pas favorable à cette réforme, on peut y arriver, Benjamin, avec un peu de raisonnement économique, avec un peu d'expertise, à trouver des systèmes futés.
En tout cas, moi, je le souhaite vivement qu'on y arrive. Et bon, par exemple, dans ce qu'a dit Christian Saint-Étienne, moi, je retiens beaucoup d'éléments tout à fait importants. Tout à fait importants. Je veux dire, on aurait ce débat-là, je pense qu'on n'aurait pas le débat qu'on a maintenant. Bon, donc je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous.
C'est à ça que vous servez, messieurs. Hein.
Mais surtout, je veux dire, mais en tout cas, tel que c'est posé dans ce que vous venez de dire et dans votre article, il y a des éléments clés de ce que pourrait être une réforme du système des retraites autrement pensée. Hein. Donc, moi, je ne suis pas de ceux, vous le savez, hein, je ne suis pas de ceux qui sont pour la défense tout craint des choses comme elles existent. Je veux dire, on n'est plus du tout au moment où on a fondé le système des retraites et il doit être repensé. Donc, les éléments parmi d'autres, mais en tout cas, ils sont clés. Hein. Moi, je suis prêt à engager une discussion sur ces points, complétés par d'autres. Ce qui me gêne très considérablement, c'est pas du tout que vous venez de dire. Ce qui me gêne très considérablement, c'est que la discussion sur les retraites en France, depuis juste quelques années, elle a connu au moins trois dérives fondamentales qui font qu'on est complètement dans une impasse. Bon, la première dérive, c'est que elle a été annoncée comme systémique. Alors, c'était pas ce que vous suggérez, c'était la réforme par points, mais l'idée, c'était une réforme systémique. Et puis, en fait, elle est devenue entièrement paramétrique.
Totalement.
Paramétrique.
Oui, non, mais c'est totalement.
Il n'y a plus aucune discussion de fond. D'une certaine manière, si votre article a du succès, et je le souhaite,
Je le souhaite aussi.
On reviendrait vers une discussion un peu systémique. Et c'est de ça qu'on a besoin.
Donc les dérives, Philippe.
Oui, première dérive. Deuxième dérive, de paramétrique, tout s'est focalisé sur 65 ans.
Oui.
Ou 64 ans. Ce qui est le pire, alors là, je signe des deux mains la tribune.
De Philippe Aguillon.
De Philippe Aguillon.
Je vous donnerai
c'est la forme la plus injuste possible. Mais la plus injuste possible. Ça n'a aucun sens de dire le type qui commence à travailler à 16 ans et le type qui commence à travailler à 30 ans, de toute façon, ils sont assujettis au même. C'est débile. C'est débile. Et c'est d'une injustice
incroyable.
Vous avez
parfaitement résumé ce que dit Philippe Aguillon.
Mais oui, ça n'a aucun sens de faire un truc pareil. Et puis,
la troisième dérive qui vous venait à l'esprit. Si vous la retrouvez pas.
Oui, je la retrouvais pas. Ah oui, la troisième dérive, c'est que c'est plus pour les retraites. C'est pour financer les dépenses sociales en général.
Et je suis complètement d'accord avec vous.
C'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi. Je veux dire, l'État a effectué dans ses dépenses ou dans son équilibre, hein, ou dans son renoncement à certaines recettes, à des dérives. Et puis maintenant, il pique sur les assurés sociaux. C'est quoi ce truc ?
Non, mais je pense que dérives mériteraient un article qu'on pourrait accrocher
évidemment,
également.
Mais je me réserve de le faire.
Oui, faites-le.
On est quand même très loin du type de choses que vous proposez, et en tout cas sur le fait que une réforme systémique, oui, est envisageable, à condition de tenir compte de toute une série. Bon, c'est pas le cas.
Philippe Aguillon écrit aujourd'hui que les 65 ans reviennent tout simplement à transférer des revenus des moins favorisés vers les plus aisés. Parce que le gars qui a commencé à 26 ans, évidemment, 65 ou pas, lui, il continue après 65. Et puis juste la phrase de Philippe Trénard. Dans les échos d'hier, la France ne peut plus continuer à cumuler la durée annuelle du travail la plus réduite et la durée de vie active la plus réduite. Et c'est pour ça qu'il considère, lui, qu'il y a suffisamment de personnes en bonne santé pour repousser l'âge de départ à 65 ans. Il n'est pas vraiment sur la même ligne. Gaël Sliman, là, ce qu'on vient de dire en l'espace de 15 minutes sont des éléments, j'ai envie de dire, neufs dans la réflexion sur que faire avec la réforme des retraites. Et effectivement, on s'éloigne très très nettement des dérives justes que pointe Benjamin Coria. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la perception de l'opinion, par rapport à ce débat-là qui s'ouvre? La concertation a commencé hier, elle va durer pendant 2 mois.
Alors j'ai beaucoup beaucoup d'informations. Donc
un peu plus près le micro, Gaël.
J'ai beaucoup d'informations sur le sujet puisqu'on
a monté.
Je vais les sélectionner et puis surtout je vais vous renvoyer, comme vous l'avez fait pour l'article de Christian, aux Échos. Moi je vais vous renvoyer au baromètre que nous réalisons pour Groupama chaque année sur le rapport des Français à la retraite. On interroge plusieurs milliers de personnes, 3000 Français, pour regarder ce que nous disent chacun par tranche d'âge, par CSP, catégorie socio-professionnelle. Et on compare ça à ce que nous disent nos voisins européens, des grands pays européens comparables aux nôtres. Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne. Pour rebondir sur ce que vous dites, d'abord, la vague de l'année dernière de notre enquête nous avait planté le décor et nous montrait, pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête des Français, que notre rapport à la retraite, c'est l'idée d'un âge d'or. C'est-à-dire que pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête de l'immense majorité des Français, c'est le bonheur. On interroge des gamins de 20 ans, de 25 ans, qui nous disent, texto, le meilleur moment de ma vie, ce sera au moment de ma retraite, donc me dites pas qu'il faudrait que j'attende d'avoir... Alors, ça peut être triste de se dire qu'à 25 ans...
C'est très français, ça.
On se dit...
Non, alors, c'est pas très français, alors, juste un mot. Les Espagnols, ils disent jubilación.
Jubilación.
Oui. Ils disent embarazada aussi.
Alors, moi, je suis trop vieux, parce que j'ai jamais rêvé de la retraite quand j'avais 20 balais. Hein.
Alors,
est-ce que j'ai trouvé que les 20-40, c'était bon?
Alors, on a plutôt tendance
à... Et en bossant,
on a plutôt tendance à se dire que, a priori, quel que soit son âge, c'est plutôt quand on est jeune, quand on a 25-30 ans, que la vie est formidable.
Mais là, maintenant, j'ai
le rapport à la retraite, pour une autre métaphore, si vous voulez que je file une autre métaphore, il y a cette idée qu'on est un petit peu comme des gamins à l'école, à suivre des cours qui nous embêtent, et à se dire, vivement la fin juin, le début juillet, parce qu'on va avoir 2 mois de vacances. Donc on a ce rapport-là. Ce qui fait que, dans l'idée de la retraite, on a le sentiment que on veut en profiter le plus longtemps possible, et que pour rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant, il n'y a pas pire injustice que de repousser l'âge légal de départ. Donc toutes les réformes des retraites, toutes, ont toujours eu une majorité de Français contre elles à partir du moment où on jouait sur ce paramètre-là. En revanche...
Sur ce seul paramètre.
En revanche, l'idée qu'il faille travailler différemment, changer les choses, et peut-être cotiser plus longtemps, c'est une idée qui fait son chemin dans l'opinion et qui fait pas plaisir aux gens, mais qui est plus acceptée. Donc si on disait, les amis, il faudra bosser, cotiser 6 mois de plus ou 1 an de plus pour l'équilibre du système, ça ferait pas plaisir, mais ça passe beaucoup mieux. Or, il y a une incompréhension totale. On a eu des débats ici très souvent sur pourquoi serait-il plus efficace de jouer sur l'âge de départ que sur la durée de cotisation. On ne va pas le refaire ici.
Ça, les économistes vous expliquent très clairement.
Il vous explique qu'il y a mille raisons. Mais en tout cas, ce que je veux dire, moi, parce que c'est mon domaine, c'est que l'opinion publique, elle ne le comprend pas. Elle ne le souhaite pas. Elle ne l'accepte pas. Je reprends ce que vous disiez il y a un instant. Il y a des gens qui sont aisés, qui appartiennent à des milieux en général plus favorisés, qui commencent à travailler à 27-28 ans, après avoir fait des études agréables et après avoir été, par exemple, passé un an ou deux.
Non, mais c'est pas la même chose.
Et je vais même pas prendre l'exemple.
Moi, je bosse, mais j'ai pas l'impression quand même de me tuer le corps à la tâche.
C'est pas pareil que le maçon qui.
Non, mais je vais même pas prendre l'exemple que vous donniez de 16 ans ou 17 ans. Parce que le gouvernement vous dirait, il y a la pénibilité, il y a des exclusions, il y a des exceptions. Mais prenons quelqu'un qui commence à 20 ans ou à 19 ans. L'écart, il est quand même de 7-8 ans dans l'exemple que je donnais. Et donc, ça n'est pas accepté. Deux derniers points intéressants quand même. Ça fait des années qu'on suit ce que nous disent les Français sur l'âge souhaité, pas l'âge idéal, l'âge souhaité de départ à la retraite, et c'est pas l'âge idéal, c'est différent, et l'âge pronostiqué. Et il y avait un hiatus énorme, ce qui montrait les frustrations de nos concitoyens. Ils nous disaient, je pronostique de partir à 65. Depuis des années, ils disent, je partirai à 65 ans, et je souhaite partir à 60. Ça fait un écart énorme. Là, on a une convergence pour la première fois à 62 ans. C'est-à-dire qu'en pronostic et en souhait, on se rapproche. Ça veut dire vraisemblablement qu'on est moins dans des délires ou des inquiétudes ou des cauchemars, si on se place du point de vue de l'opinion publique, et davantage dans des choses rationnelles. Dernier élément, il faut une réforme, nous disent les Français. Donc ça veut dire qu'ils sont contre une réforme. Ils exigent même une réforme parce qu'à la retraite, il y a un sujet qu'aborde le gouvernement dans sa réforme et qui est un sujet incontournable, qui est la question des femmes. Quand on a regardé dans l'enquête où en étaient les femmes et la retraite, on a des inégalités par rapport à la retraite qui s'expliquent par des carrières plus hachées, par des interruptions, par tout un tas de raisons, qui sont absolument monstrueuses, avec en gros 30%, voire plus, de différentiel de pension. Ça peut monter à 40%.
Et enfin, ça s'est réduit.
Oui, parce qu'il y a un effet national, de stock.
Il y a un effet de stock maintenant.
Mais il y a un deuxième paramètre, Christian, qui est que vous avez en plus des femmes qui doivent travailler plus longtemps parce qu'elles ont eu des carrières plus hachées. Donc vous avez ce double élément qui fait que les Français nous disent il faut la réformer parce que, dernier point, ils sont persuadés que notre système de retraite ne tiendra pas. Et que eux, ils ne toucheront pas une pension correcte tant qu'ils seront à la retraite. Donc, je vous invite à vous reporter à ce baromètre sur notre site internet.
Bon, on marque une pause. On comprend, en tout cas, à l'audition de ces quelques minutes de débat sur la réforme des retraites, qu'on ne peut pas le traiter simplement. C'est un sujet complexe qui doit être traité de manière complexe. Que l'accrocher, effectivement, à une seule et même borne d'âge comme unique référentiel d'observation de ce que pourrait être la réforme, est probablement aliénant, et c'est même d'ailleurs une erreur politique. Là, vous voulez réagir, Christian, dans un instant, je vous donnerai la parole. Et puis, on va ouvrir le chapitre de l'assurance chômage pour regarder ce que nous dit le baromètre Odoxa à Bail Assurance Challenge BFM Business ce mois-ci. Bon, est-ce que vous êtes pour ou contre, bien sûr. Mais pourquoi il y a des postes qui ne trouvent pas preneurs? Pourquoi il y a tant de postes vacants? Ah, la réponse est assez dérangeante. Après, si réforme il y a, bon, il y aura réforme. Quels sont, selon vous, les paramètres qu'il faudrait bouger en fonction de la conjoncture, vous savez, de la météo, de l'emploi? La question a été posée, vous aurez la réponse dans un instant.